End up back down there on the parchment farm. I ain't thinking about no parchment farm. You liable to go back before I do. They had Lyman down there singing Bird Up Bird.
No, they didn't.
No,
gonna tell that lie, boy.
Yeah, they did.
He ain't never been in no parchment penitentiary.
He said.
Hold on. Bird Up. Bird Up. Hold on down, well now, go ahead and marry, don't ya, wait on me, oh, go ahead and marry, don't ya, wait on me, well now, my now won't show.
But don't know this.
Oh, Lord, yeah. Oh, Lord, bird of bird. Oh, Lord, yeah.
Raise
them up higher, let them drop on down. Oh, raise them up higher, let them drop on. Got down, work all leave. Oh, I'm old old parchment. Got down, work all leave. Well, now, oh, I bird up, bird up. Hold on down. Oh, I bird up, bird up. Hold on down. Well, now, when you mad on your mind.
Come on, play some piano. You play piano. Come on, play. Lama want to hear you play.
Oh, shoot. I give that piano.
That's a nice piano. If I knew how to play it, I would play.
Une messe en prison de Chester Himes aux éditions Gallimard. Qui ignore le déroulement douloureux de la vie de Himes? Il est emprisonné à 20 ans à la prison de Cleveland où il purge une peine de 7 ans de pénitencier pour vol à main armée. Ne peut entrer dans l'intimité profonde de ses histoires dans lesquelles il livre pêle-mêle toute la passion et la colère refoulée d'une existence marginale. Sans y paraître, la plupart de ses pages sont des jalons précis de son itinéraire personnel à travers le pays et les décennies. Ce recueil réunit des nouvelles écrites sur un demi-siècle et qui ont pour cadre les lieux où ses errances l'ont porté. États-Unis du Nord et du Sud, de la Nouvelle-Angleterre à la Californie. En réalité, ces nouvelles ne sont pas politiques, plutôt anecdotiques. Parfois, il s'amuse et s'adonne à la parodie. Passant sans transition de la tragédie au burlesque, Himes ne se prive pas de démontrer par l'absurde combien les deux modes sont proches. Même si ces histoires sont empreintes d'une vraie rage contre le racisme et que la plupart des personnages sont tenaillés par la peur d'être noir, sinon par la haine, ce recueil est surtout un livre noir sur fond de tendresse et d'humour qui compte sur un air de blues, la détresse des exclus du rêve américain. Une nouvelle qui s'appelle « Déposez-moi à l'angle d'Oncle Sam et George Brown ». Donc, je suis là le lendemain matin à attendre le bus qui va m'emmener à Bakersfield. J'ai refilé 25 billets à ce gommeux pour qu'il me décroche le boulot. Et tout ce que j'ai, c'est un morceau de papier avec son nom dessus que je suis censée donner au patron quand j'arriverai là-bas. Ma princesse m'a soulagée du fric qu'il me restait, vu que j'aurais besoin de rien, à ce qu'a dit Georges, et qu'on me donnerait gratuitement tout ce que je pourrais vouloir. Tout ce qui me reste, c'est la ferraille qu'elle m'a permis de garder. Mais là, je suis déjà mordue. J'ai la fièvre du pognon, comme elle. D'abord, je me la raconte à 2-0. Je me mange 700 ou 800 dollars et je redescends. Mais quand j'arrive à Bakersfield, je me balade dans les 3-0. Je me vois avec les poches pleines de billets de 1000 dollars. Je cloue les autochtones avec mon costard crème et ma carrure d'un mètre. Et puis je me mets à la recherche du type qui doit m'attendre, d'après Georges. Et voilà que se ramène un gros oncle Tom en salopette amidonnée qui me demande si c'est moi, Hyde C. Ça te regarde? T'es de la police? Je lui réponds. On m'appelle Côtelette, il dit. Je suis le cuistot de la plantation. Je viens te chercher. Dieu du ciel, si c'est pas ce bon vieux boule de coton, je gazouille en lui refilant le papier que Georges m'a donné. Puis, je lui demande. C'est ta bagnole de l'autre côté de la rue? Il regarde la Lincoln Zephyr verte et puis il me regarde. Moi, je suis de ce côté. Il grommelle en me montrant une camionnette Ford déglinguée. Bon là, ça me rend dingue qu'on m'envoie ce tas de boue. Mais je suis tellement dans mes rêves que je relève pas. Avec mes 20 000 dollars, je peux m'acheter un tank si ça me fait plaisir. C'est pas comme si j'étais obligée de monter dans cette poubelle. Alors je grimpe à côté de Côtelette et il démarre. On roule depuis un moment quand il me regarde. Combien tu peux en ramasser, petit gars? Oh, t'inquiète pas pour moi, Côtelette, lui dit. Je me ferai mes 2000 livres les doigts dans le nez. Ensuite, si je suis pas trop fatiguée, je m'en ferai encore 2000. 2000? Il se tourne sur son siège et me regarde. Ça fait une tonne. Bravo, t'as gagné ton diplôme, je lui fais. À ce compte-là, va pas nous falloir longtemps pour écraser l'ennemi. Il se contente de répondre. Une heure après environ, on arrive à un baraquement. Je descends et je rentre à l'intérieur. Des deux côtés, des rangées de couchettes et au milieu, une grande table de bois avec des bancs. Ça ressemble au camp de prisonniers où j'ai tiré 6 mois. Et là, je suis vraiment en pétard. Je reste pas dans ce taudis, je grogne. Mais tu vas faire quoi alors ? Qui me demande. De construire une maison ? C'est à ce moment-là que j'aurais dû laisser tomber. Mais la fièvre du pognon me tient. Ça fait longtemps que je suis un mec à la cool, et même quand je me mets en pétard, je sais à quel moment il faut s'arrêter. Si les autres petits malins sont capables d'encaisser ça, moi aussi. Alors quand le vieux Côtelette me montre un lit dans un coin, je lui montre pas que je suis fumasse. Je lui jette mes derniers 50 cents. Occupe-toi bien de moi, Côtelette, je lui fais. Sans abattement de cils, il attrape la pièce et se la met dans la fouille. « Oui, monsieur, » il dit. Au coucher du soleil, les ramasseurs reviennent, balancent leurs sacs sur les lits et se mettent à table. S'il y a des mecs à la coule dans l'eau, ça doit être des teigneux, parce que ces types-là m'ont l'air de sacrées bêtes. Ils parlent aussi fort que les cuivres du Count Basie et arquent comme ce bon vieux Moïse. Le temps que je me pointe à table, il reste plus qu'une pauvre petite côtelette toute seule. Quand on a fini de clapper, voilà le vieux Côtelette qui réplique de sa cuisine. Les gars, je veux vous présenter Hyde C. Hyde C fait le requin dans une salle de billard. Il ramasse une tonne de coton par jour et s'il n'est pas fatigué, il s'en fait une deuxième. Je me lève et je leur fais le salut du boxeur. Mais là, les mecs se figent. J'ai jamais rien vu de pareil. Personne bouge. Ensuite, ils se tournent et ils me regardent. Et puis, ils se lèvent et retournent à leurs affaires. Personne m'a rien dit, pas un mot. Cette nuit-là, papa Billot et oncle Tolliver se ramènent près de mon lit. « T'as déjà ramassé du coton, fiston ?» me demande papa Billot. « Moi, dis pas que je mens, ça fait de la peine à ma maman, je lui dis. J'ai ramassé partout, du Maine à l'Alabama. » Oncle Tolliver tire sur sa pipe. Coton du Maine, coupe-toi les veines, comme disent les jeunes. Moi, je te le fais pas dire, je dis. Quelqu'un me secoue en plein milieu de la nuit et vu que je crois que la baraque est en feu, je me mets debout d'un bond et je cours dehors. Le temps que je comprenne qu'il se lève pour le petit déjeuner, il n'y a plus de petit déjeuner, à part une cuillerée de gruau. Et tout de suite après, nous voilà dans le champ de coton qui est plus noir que moi. Tôt, comme ça, le matin, personne ne dit rien. Le costaud à ma droite s'appelle Demi-Tonne Red. L'autre à gauche, c'est Willy Larangé. Des mecs balancés comme Jack Johnson. Je glisse la bandoulière sur mon épaule, comme je les vois faire, et je flanque le grand sac dans mon dos. Ben c'est parti, comme dit le lièvre aux escargots, je rigole, en roulant le bas de mon pantalon. Je crois pas si bien dire. Le temps que je lève les yeux, mes deux mecs sont plus là. Sans char, ils ramassent le coton tellement vite qu'on voit même plus bouger leurs bras. Je me retourne et je les vois tous en train de me regarder. Oh, ils se prennent pour des coureurs, ma parole, je me dis. Je vais leur faire bouffer leur coton. Je passe à l'attaque des deux bras et j'empoigne le premier coton que je vois. Quelque chose me saute dessus et me mord le doigt et je fais un bond de 3 mètres. À tous les coups, c'est un serpent qui m'a mordu. Mais quand je comprends que c'est juste l'épine d'une boule de coton, je me sens comme une limace empalée. Le coup d'après, je ruse, je la prends par surprise et je tire. Je m'arrête de tomber quand je suis par terre. Alors, je me fous en pétard. Je me mets à empoigner ce coton à deux mains. Une heure plus tard, on dirait que j'ai pris la pluie. J'ai jamais eu les mains aussi esquintées, comme si toutes les boules m'avaient mordu. Quand j'essaie de me remettre droit, j'ai plus de crampes que l'oncle Saul. Je regarde mon sac. Il est plein sur le dessus, mais quand je le secoue, le coton disparaît. Après, je pense à l'argent, en 40 billets par jour, peut-être bien 50, vu que j'ai commencé au milieu de la nuit. C'est pas croyable ce qu'un homme peut faire pour du pognon. J'y retourne. Quand j'ai fait la moitié de ma rangée, j'entends plus personne. Je relève la nuque et je m'essuie les yeux. Il n'y a plus personne dans le champ, sauf un type au bout de mon rang. Oh, je me dis que les autres sont allés boire un coup de flotte et je décide de me dépêcher de finir la rangée, histoire de leur en mettre un peu dans la vue. Je fais encore 10 mètres à ramasser du duvet de charbon sec avant de me rendre compte que j'ai fini ma rangée. Pfiou, je fais en essuyant la sueur de mes yeux. Et là, je vois le patron qui réplique. Comment je m'en sors, papy, je pavoise? J'ai pas dételé comme tous ces autres mecs, moi. J'ai préféré finir ma rangée avant d'aller boire un coup. Ah, t'as fait ça, qu'il me dit d'un ton un peu bizarre, mais j'y fais pas attention. Comme je vous le dis, Effendi, j'arrête pas le moteur toutes les 5 minutes pour remplir le radiateur. Je passe d'un pied sur l'autre et je me lance. Je suis pas comme tous ces mecs qui jurent qu'ils en foutront jamais une rame, qui se ramènent ici pour trimer en disant qu'ils sont partis dans l'Est et qui reviennent plein aux as. Moi, je m'en fous qu'on sache que je trime du moment que je fais ma plotte. Tenez, quand ce gommeux de George Brown m'a fait son baratin, je bossais dans une salle de billard et je me croyais bien loti. Ici, c'est pas une salle de billard. Et les autres, ils sont pas allés boire un coup, m'interrompt le patron. Ils ont fini leur rangée et ils sont passés de l'autre côté de la colline.
Observe the every where you go. The times are harder than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but you can't find no heaven. I don't care where they go. People, if I ever can get up off of this old heart-killing flow, Lord, I'll never get out this low no more. Mm-hmm. Singing this old lonesome song, people, you'll know these hard times can't last us so long. Better be sure, don't these hard times gonna kill you? Just dry long so.
Qui s'appelle Sale Tricheur. Toute sa famille était très claire de peau. L'examen le plus minutieux n'aurait pu parvenir à révéler leur sang noir. Pourtant, dans la petite ville du Tennessee où il était né, on les considérait comme des Noirs. Ceci n'a rien d'exceptionnel dans le Sud. Les membres de sa famille avaient accepté leur statut de Noir sans rancœur apparente et travaillaient assidûment à s'assurer un niveau de vie confortable. Après le collège, il avait suivi les cours de l'université Fisk, dont il sortit diplômé en 1931. Il vint à New York chercher un emploi et travailla un an comme porteur. Au printemps 1933, on lui offrit de s'engager comme un matelot sur un cargo en partance pour l'Italie. Durant les 7 années qui suivirent, il vécut au Portugal, exerçant un certain nombre de petits métiers. Il prit le nom de Ferdinand Cortés et avec le temps, apprit la langue qu'il parla bientôt très correctement. En 1940, il se fit fabriquer des faux papiers qui faisaient de lui un Portugais de naissance et demanda un passeport et un visa américain. Il y avait une jeune fille espagnole qui s'appelait Lupe Rentera et travaillait dans son service. Il fut attiré par elle dès qu'il la vit, mais la conscience de son sang noir le retint de faire les premiers pas. Elle était également attirée par lui. Un jour, elle finit par lui adresser un sourire d'encouragement. En retour, il l'invita à déjeuner. Il apprit qu'elle logeait chez une famille de Mexicains à la limite du quartier espagnol à Brooklyn. Ravi, il lui annonça qu'il habitait tout près. Ils découvrirent qu'ils prenaient la même ligne de métro pour aller travailler et se demandèrent comment ils avaient pu ne pas se voir. Ensuite, il l'attendit tous les matins et rentra avec elle le soir. Ils commencèrent à sortir ensemble régulièrement. Et le mois suivant, ils étaient fiancés. 2 mois plus tard, ils allèrent demander leur certificat de publication des bancs. Il déclara être de race blanche, de nationalité portugaise. Elle déclara être de race blanche, de nationalité américaine. Leurs collègues organisèrent une petite fête dans les bureaux pour leur mariage. Ils passèrent leur lune de miel à chercher un appartement à Brooklyn. On leur proposa 2 logements. Mais ils étaient tous 2 situés dans des quartiers où vivaient des Noirs et ils refusèrent. Ils finirent par trouver un appartement qui leur convenait dans le sud de Brooklyn et dépensèrent toutes leurs économies pour le meubler. Ils auraient dû être merveilleusement heureux. Pourtant, une certaine tension régnait dans leur relation. Lui vivait dans la crainte perpétuelle qu'on ne détecte son sang noir. Depuis sa démobilisation, il avait repris contact avec sa famille au Tennessee, mais pour éviter d'être démasqué, il avait pris une boîte postale où il recevait son courrier. Ses parents ne connaissaient pas son nom d'emprunt, ni son adresse, et ignoraient tout de son travail. Dès qu'il avait lu leurs lettres, il les détruisait. Mais il avait peur que Lup ne décèle dans son apparence des signes trahissant son appartenance. Il était toujours méticuleusement propre et utilisait un aftershave contenant un éclaircissant léger. Toutes les semaines, il allait se faire couper les cheveux et se faire masser. Mais de crainte que les coiffeurs du quartier ne détectent ses origines noires d'après la texture de ses cheveux, il allait chez un coiffeur noir de Harlem. Chaque samedi après-midi, quand ils rentraient de leur demi-journée de travail, ils partaient pour sa virée dans le nord de la ville et ne revenaient qu'à la nuit tombée. Après sa coupe et son massage, il passait le reste du temps à se promener dans les rues de Harlem. C'était le seul moment de la semaine où il se sentait complètement détendu. Lup avait également un problème dont il ignorait tout. Elle aussi se sentait mal à l'aise avec lui car elle avait également du sang noir. Une nouvelle qui s'appelle « Un déjeuner au Ritz-More ». Si vous êtes déjà allé dans la belle cité de Los Angeles, vous savez que Pershing Square, une place ombragée de palmiers au centre de la ville basse, est une Mecque métisse. Ici, à quelques pas de Skid Row, les bancs peints en vert qui flanquent les trottoirs entrecroisés sont un havre pour les hommes de toute race, de toute croyance, de toute nationalité qu'on voit traîner là, à tous les stades de la déchéance. Le Ritz-More, le plus clinquant des hôtels de la côte ouest, se détache nettement sur Olive Street. Ce jour-là, la discussion qui avait démarré sur l'Union soviétique s'était transformée en dispute sur la discrimination à l'égard des Noirs et un jeune étudiant de l'université de Southern Californie, originaire du Vermont, déclara carrément qu'il ne croyait pas du tout qu'il existât une discrimination quelconque à l'encontre des Noirs. Si vous tiriez vos conclusions de vos investigations et non de la propagande, vous découvririez qu'une grande partie de la discrimination envers les Noirs n'existe que dans la littérature communiste distribuée par le Parti communiste à des fins de recrutement, continua-t-il. En fait, et pour tout dire, je me suis encore jamais trouvé dans un endroit où les Noirs ne pouvaient pas entrer. Tout bien considéré, je crois que j'ai vu des Noirs partout où je suis allé. Dans les hôtels, les théâtres, les salles de concert, les opéras. Ouais, et je te parie qu'ils y travaillaient aussi, contesta un autre jeune garçon, un vagabond de Chicago. Écoute mon vieux, moi je te le dis, et je te le dis tout net. Dans ce pays, les Noirs sont foutus. Ils peuvent pas trouver de travail et ils peuvent aller nulle part. Et c'est une foutue honte parce qu'il y a un tas de bons Noirs, un tas de bons Noirs tout aussi valables que toi et moi. Inspectant le vagabond de la tête aux pieds, son visage qui n'était pas rasé, son costume élimé et fripé, ses chaussures éculées et sales, l'étudiant répliqua « Franchement, ça n'en fait pas une race exceptionnelle. »« Hein ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le problème, » continua l'étudiant en souriant. « Le problème, c'est que la plus grande part de ce que vous appelez discrimination n'est en fait qu'une affaire de goût, d'affinité ou d'antipathie personnelle. Par exemple, si je ne vous aime pas, est-ce que je dois supporter votre présence ? Non, pourquoi le devrais-je ? Mais tout ce ramdam sur les Noirs qui souffrent de discrimination dans l'armée de terre, la marine, les industries de la défense, ou qu'on refuse de servir dans les hôtels et les restaurants, c'est tout simplement de la foutaise. Tu me mets en boîte, mon pote ? Demanda le vagabond d'un air soupçonneux, dévisageant l'étudiant d'un œil aigu. Ou alors c'est juste que t'es complètement con ? Hé, écoute. Il aperçut alors un noir en lisière du groupe. Tiens, voilà un type de couleur. Je suppose qu'il sait s'il souffre de discrimination ou pas. Ouais, pas nécessairement, murmura l'étudiant. Ignorant la remarque, le vagabond cria. Hé, monsieur, ça vous ennuierait pas de nous mettre d'accord sur un point ? Le noir, un jeune homme de taille moyenne à la peau café au lait, aux traits réguliers ornés d'une petite moustache, se fraya un chemin au centre du groupe. Il portait un pantalon de velours côtelé et un pull enfilé sur une chemise sport. « Voilà, monsieur, j'essaie d'expliquer à ce collégien !» commença le vagabond, mais le noir l'interrompit. « Je sais, je vous ai entendu. » Se tournant vers l'étudiant, il continua. « Je ne sais pas si vous blaguez ou non, monsieur, mais moi, ça me fait pas rire. Regardez, je suis mécanicien, un bon mécanicien. Et il paraît qu'on a besoin de mécanos partout. Mais est-ce que j'ai un travail? Non. Faut que je reste là à écouter des types comme vous tourner ça à la plaisanterie pendant que le gouvernement pleure et réclame des mécanos pour la défense. Je ne tourne pas ça à la plaisanterie, affirma l'étudiant. Si ce que vous dites est vrai, j'en suis vraiment désolé, monsieur. C'est juste que j'ai du mal à le croire. Écoute le collégien, dit Vagabond. Je vais te dire ce qu'on va faire. On va parier $1 que ce type, cet homme-là, pourra pas manger dans un seul des restaurants du coin. On va juste parier $1. À présent qu'un pari était engagé, les 10 à 12 types attroupés qui avaient gardé le silence par respect pour les sentiments du noir surenchérirent. « Allez, collégiens, à bout, les ferme-là !»« Eh bien, si cela vous va, monsieur, dit l'étudiant au noir, je vais relever le pari de ce jeune homme. Mais comment allons-nous procéder ?» Ils se concertèrent et au bout d'un moment décidèrent que le noir entrerait dans n'importe quel restaurant de son choix, que si on refusait de le servir, l'étudiant paierait son pari perdu et offrirait un dîner aux deux autres dans Central Avenue. Mais si on le servait, l'addition serait pour le vagabond. Et les trois hommes, l'étudiant, le noir et le vagabond, se mirent en route, descendant Hill Street à la recherche d'un restaurant. Les 10 ou 12 types de l'attroupement originel partirent à leur suite et bientôt, d'autres hommes dans d'autres groupes assemblés sur la place levèrent les yeux, virent la procession et, pensant que quelqu'un distribue quelque chose quelque part, se dépêchèrent de leur emboîter le pas. Avant même que les trois hommes aient parcouru un pâté de maison, plus d'une centaine de clochards dépenaillés de Pershing Square s'étaient mis à les suivre. Les piétons s'arrêtèrent pour voir ce qui provoquait pareille agitation, ajoutant encore à la confusion. Enfin, les automobilistes remarquèrent ce qui se passait et ralentirent. Bientôt, près d'un millier de gens se retrouvèrent agglomérés sur le trottoir et un embouteillage aux proportions alarmantes bloqua la circulation sur plusieurs pâtés de maison.